Bonsoir. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir et d'accueillir Hélène Thiollet pour cette dernière conférence de la semaine arabe qui avait donc pour thème frontières et territoires. La conférence de Madame Thiollet s'intitule « Migrants et politique migratoire en Arabie Saoudite ». Donc Hélène est une ancienne élève de l'école. Elle a été élève de Houda Ayoub qui a donné l'impulsion de toutes ces semaines arabes dont nous sommes la 18e édition. Elle est titulaire d'un DEA en géographie du développement à Paris 1, ainsi que d'une maîtrise de grec à Paris 4.
Avant la maîtrise, ouais.
Elle a soutenu un doctorat en sciences politiques en 2007, et depuis, elle enseigne les relations internationales à Sciences Po, et elle écrit dans de nombreuses revues. Elle est research partner à l'International Migration Institute à Oxford, et membre du comité de la rédaction de la revue Critique Internationale. Ses recherches portent globalement sur les politiques migratoires dans les pays du Sud, et elle a écrit de nombreux articles sur le sujet, dont un qui est peut-être particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui, qui s'intitule « Nationalisme d'État et nationalisme ordinaire en Arabie Saoudite, la nation saoudienne et ses immigrés » dans Raison Critique en 2010. Voilà, je vous laisse la parole.
Oui, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Et merci pour cette invitation qui me touche beaucoup. C'est la première fois que j'ai la chance de parler pendant la semaine arabe. Voilà. Et je suis vraiment ravie d'avoir la possibilité de vous présenter ce qui est en fait une recherche en cours, qui est menée dans le cadre d'un programme financé par l'Agence nationale pour la recherche, un programme qui s'intitule MobGlobe, sur la gouvernance globale de la mobilité, et qui a pour vocation d'élucider les mécanismes de régulation de la mobilité internationale, donc mobilité forcée et mobilité volontaire ou économique, tout en, bien sûr, mettant tous les guillemets nécessaires sur cette catégorisation qui souvent reflète en fait des réalités extrêmement hybrides. Et c'est un programme qui, dans un de ses axes de recherche, s'intéresse aux politiques migratoires comparées, avec une comparaison que ma collègue et moi, nous sommes toutes les deux coordinatrices de ce programme ANR, Catherine Vitole de Vinden et moi-même, une comparaison que nous avons voulu un peu ébouriffante entre les politiques migratoires des monarchies du Golfe, qui sont de grandes nations d'immigration, on va dire, et les politiques migratoires de l'Union européenne et des pays européens, qui sont aussi de grands pays d'émigration. Donc c'est dans le cadre de cette comparaison un tout petit peu scandaleuse, on nous l'a dit, que je travaille de mon côté sur les politiques migratoires dans les pays du Golfe en général, et plus particulièrement en Arabie Saoudite, et c'est le travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est un travail qui est en cours, qui a donné lieu à plusieurs terrains de recherche depuis l'an dernier, et qui, dans son état actuel, correspond à la préparation d'un article en anglais, ce qui explique pourquoi la présentation écrite que vous avez sous les yeux est en anglais, parce que le travail sera publié en anglais, donc je m'en excuse. Voilà, je vous prie de m'en excuser. Je ferai donc cette intervention en français, en m'auto-traduisant et en espérant limiter le nombre d'horribles anglicismes éventuels auxquels je pourrais commettre. Donc, cette présentation porte sur l'immigration et les politiques migratoires en Arabie Saoudite, et sur un phénomène en particulier, qui est celui de l'installation des immigrants de travail en Arabie Saoudite. Donc, pour expliquer pourquoi ce thème est d'une part particulièrement intéressant et d'autre part novateur, cette perspective sur l'immigration en Arabie Saoudite est novatrice, il me semble qu'il faut donner un tout petit peu de contexte à l'immigration dans les monarchies du Golfe en général, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le cas saoudien et les travaux empiriques à la fois quantitatifs et qualitatifs auxquels je me livre. Donc la narration ou les modèles de la migration internationale dans les monarchies du Golfe sont fixés dans la littérature et correspondent à un discours très rigide sur ce qu'est l'immigration dans cette région. En ce qui concerne les flux, le discours en général sur l'immigration dans les monarchies du Golfe lie les flux migratoires et la construction de l'État, notamment dans le cadre d'économies pétrolières très pauvres en main-d'œuvre et ayant donc besoin d'importer de la main-d'œuvre à la fois non qualifiée et qualifiée dans le cadre de l'exploitation de la rente pétrolière, avec un modèle de gestion de cette importation de main-d'œuvre que l'on peut assimiler aux modèles de gestion qui ont été mis en place en Allemagne dans les années 60 et 70, donc le modèle de travailleur invité, de Gastarbeiter, qui implique que l'on fait venir des travailleurs sur la base de contrats de travail temporaires et que ces mêmes travailleurs n'ont pas vocation à s'installer durablement dans les pays dans lesquels ils viennent travailler, ni à y faire venir leur famille. Donc ce type de modèle a été beaucoup étudié, bien sûr en Europe et en Allemagne, mais aussi par quelques auteurs, pour le cas des monarchies du Golfe, en l'occurrence essentiellement par Philippe Farg ou Giacomo Luciani et Hassan Salamé. Un autre élément important de cette narration ou de cette analyse de l'immigration et des flux migratoires dans cette région tient à la question des déterminants de la régulation de l'immigration. Il y a là une ambiguïté dans la littérature, une littérature qui, quand même, je ne voudrais pas vous donner une fausse impression, est assez réduite, hein, on n'est pas là sur un sujet qui a été massivement exploré. Néanmoins, il y a une ambiguïté, ou plutôt une tension, entre la prééminence des déterminants du marché, donc des facteurs d'attraction ou de répulsion des marchés du travail de ces économies, leur capacité d'attirer des travailleurs en offrant des rémunérations, par exemple, supérieures à ceux que ces travailleurs auraient dans leur pays d'origine, qui est un des cadres d'analyse classique de l'économie des migrations. Et quand je dis classique, je veux dire vraiment économie, économie classique, quoi. Donc des facteurs push-pull. Et un second, on va dire, type de régulation de cette immigration, qui donne moins prise aux forces du marché, à une analyse très libérale, voire néolibérale, du fonctionnement des flux migratoires dans la région, et qui réinstaure, on va dire, le rôle de l'État dans des pays où il est souvent considéré comme minime dans cette régulation des migrations, et qui réinstaure l'idée que l'État a eu un certain contrôle sur ces flux migratoires. Il y a en fait à peu près deux personnes qui ont travaillé sur cette question du rôle de l'État dans le contrôle et la régulation de l'immigration. C'est Sharon Stanton Russell, qui est une chercheuse du MIT, qui a travaillé sur cette question, et notamment sur le cas du Koweït dans les années 70 et 80, et moi-même. Vous aurez compris que la narration principale, c'est-à-dire l'analyse vraiment classique de ce qui détermine les flux migratoires dans cette région, c'est essentiellement des drivers économiques. Donc premier anglicisme immonde, donc des vecteurs ou des déterminants économiques. Et un des éléments, par exemple, sur lequel j'ai travaillé, c'est le rôle des États et des monarchies du Golfe sur la période longue, c'est-à-dire entre les années 50 et la période contemporaine, dans la sélection des migrants par leur origine. Il y a pas mal d'éléments que l'on peut réguler ou sur lesquels l'État peut tenter d'avoir un contrôle dans la migration, et la sélection de l'origine des migrants, ou de leur religion, ou de leur genre, ou de leur niveau de qualification, fait partie de cette marque du contrôle de l'État. En ce qui concerne maintenant les stocks, donc ça paraît un peu inhumain de parler de migration en ces termes, mais c'est le quotidien du spécialiste des migrations, c'est-à-dire en ce qui concerne les questions d'intégration et de communautés immigrées dans les pays d'accueil. Les analyses sont en général centrées sur deux éléments importants, sur la hiérarchisation extrêmement forte des sociétés d'accueil, une hiérarchisation qui existe dans l'absolu, c'est-à-dire qui est à l'œuvre dans les sociétés du Golfe, et dans laquelle s'inscrit l'immigration de travail en créant une catégorie subalterne de population résidente. Donc il y a un effet là extrêmement fort, à la fois d'une sorte de feuilletage hiérarchique que d'autres ont analysé sur les groupes sociaux et leurs relations de pouvoir dans les sociétés du Golfe, entre sédentaires et bédouins, entre hommes et femmes, entre différentes communautés religieuses, chiites et sunnites, en Arabie Saoudite, etc. Et dans ce feuilletage de hiérarchie, on factorise la présence de communautés immigrées qui, elles-mêmes, subissent, du point de vue de l'analyse, un feuilletage hiérarchique avec une hiérarchie établie entre les différentes communautés d'immigrés. D'accord ? Ce qui a amené certains analystes à regarder les marchés du travail, notamment, et la sociologie des marchés du travail dans cette région. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y a surtout Ray Giuredini, qui est un chercheur qui opère maintenant à Beyrouth, mais qui a été longtemps à l'université américaine du Caire. Donc, ce qui l'a amené à parler de marché du travail racialisé, dans la mesure où les institutions qui structurent le marché du travail, qu'elles soient privées, les entreprises, les agences de recrutement, les bureaux du travail, les chambres de commerce ou publiques, le ministère du Travail, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice aussi, les ministères de la Justice, vont acter cette hiérarchisation des travailleurs en fonction de leur pays d'origine. Notamment, une des traductions les plus évidentes qu'on peut utiliser pour prouver cette racialisation du marché du travail, c'est la hiérarchie des salaires. En d'autres termes, à qualification égale, un travailleur venant d'un certain pays ne va pas avoir le même salaire qu'un travailleur qui vient d'un autre pays pour le même type de tâche, dans le même contexte. Donc c'est ce qu'on appelle la racialisation des marchés du travail. Le deuxième point important dans cette conceptualisation de la gestion de l'immigration et donc de la présence des immigrés sur le territoire des monarchies du Golfe, c'est la prévalence de politiques anti-intégration qui visent à empêcher l'installation durable ou le prolongement de la durée de séjour des travailleurs immigrés. Donc ces politiques anti-intégration, je pourrais revenir dessus bien sûr au fur et à mesure de cet exposé, elles concernent bien sûr la régulation de l'entrée et de la sortie des migrants, donc des visas, de l'édition des visas, des permis de résidence. Donc il s'agit de contrôler la durée de résidence bien sûr, elles concernent aussi le contrôle des formes formelles et informelles de regroupement familial. Je vous ai dit que les migrants n'avaient pas vocation à faire venir leur famille et à s'installer dans le pays d'accueil, mais on remarque que, là encore, dans le système à l'œuvre dans les monarchies du Golfe, en particulier en Arabie Saoudite, mais dans l'ensemble des pays concernés, il y a un effet de hiérarchie en fonction des classes sociales de migrants, et les migrants très qualifiés, de certaines nationalités, peuvent faire venir ce que les registres administratifs appellent des dépendants, enfin « dependents », donc leur famille, ou pas leur famille d'ailleurs, enfin peuvent faire venir quelqu'un, en utilisant leur permis de séjour et de résidence. Ce qui n'est pas le cas des travailleurs non qualifiés, par exemple. Donc encore une fois, vous voyez l'importance de cette question de la hiérarchisation dans toutes les formes de régulation de la vie sociale et des relations sociales. Un autre élément important de ces politiques anti-intégration, il y a tout un ensemble de dispositifs, bien sûr, ce sont les phénomènes de ségrégation, notamment spatiale, et l'espace, notamment dans les centres urbains en Arabie Saoudite, mais aussi dans les autres monarchies du Golfe, a été organisé pour favoriser la ségrégation entre étrangers et nationaux. Une des caractéristiques, un des exemples de cette ségrégation, c'est la constitution de camps de travail. Alors le terme est complètement inapproprié, de labor camps, qui ne sont pas nécessairement des camps, d'ailleurs, mais qui sont des lieux de résidence spécifiques alloués à la main-d'œuvre étrangère, dans lesquels sont rassemblées cette main-d'œuvre étrangère par nationalité. Alors, petit astérix ou note de bas de page ou de fin de texte ou quoi qu'il en soit, on appelle labor camps en Arabie Saoudite ou à Qatar, enfin à Doha ou au Koweït ou dans toutes les monarchies du Golfe, tout un spectre d'installations. Donc, ce sont à la fois des lieux de résidence fermée en marge des villes, dans les zones industrielles par exemple. Mais le labor camp peut aussi être un bâtiment au cœur de la ville, qui va être qualifié de labor camp, alors qu'il s'agit d'un bâtiment à côté d'autres bâtiments, etc. Donc c'est une des formes de ségrégation. Ce n'est pas le seul mode de résidence des immigrés, et je vous expliquerai pourquoi, qu'il y a d'autres formes d'habitat et de résidence, mais c'est un des modes de ségrégation. D'autres formes de ségrégation, on va dire symboliques et administratives, sont organisées dans l'accès au service public, par exemple, dans l'accès à l'école, dans l'accès à l'université. Donc il y a vraiment différents dispositifs de ségrégation qui sont mis en place et qui sont créés et mis en pratique, non pas exclusivement par les États, à travers des politiques publiques, les politiques de la ville, par exemple, les politiques du ministère des Affaires sociales, etc., mais qui sont aussi mises en pratique par des acteurs privés, par les entreprises, qui sont souvent propriétaires des labor camps, ou alors par les agences de recrutement, qui peuvent elles aussi être des agents qui organisent la résidence des travailleurs immigrants. Donc on a là un élément assez intéressant sur lequel je travaille en tant que politiste en particulier, qui est cette hybridité de l'organisation des politiques anti-intégration, à la fois par des acteurs publics et des acteurs privés, qui invite à se poser la question du rôle de l'État de manière un peu plus complexe, on va dire, que juste de dire est-ce que l'État fait ou ne fait pas. On voit comment l'État fait. Et donc je reprends ici, donc il y a tout un spectre de pratiques d'exclusion, comme l'ont dit les anthropologues Anja Longva et Andrew Garner, donc exclusionary practices, qui crée ce qu'une collègue qui a travaillé il y a longtemps sur l'Arabie Saoudite, Gwen O'Kerlick, a appelé des « excluded essentials », donc des éléments essentiels de la construction et de l'activité, de la construction de l'État et de l'activité économique du pays, mais qui sont exclus. Donc ce paradoxe, voilà, c'est une jolie formule que j'aime bien. Un des enjeux de mon travail est justement de dériver de cette approche de l'immigration que je viens de vous présenter assez brièvement pour m'intéresser aux migrants. Donc de passer de l'observation un peu macro des flux et des stocks à la question des modes de vie et de socialisation des migrants eux-mêmes. Ce qui n'a en fait pas été fait en Arabie Saoudite, mais ce qui a été fait dans beaucoup d'autres pays du Golfe, en l'occurrence à Doha, aux Émirats, dans certaines villes, avec des enquêtes de terrain très approfondies, de collègues anthropologues notamment, au Koweït et à Bahreïn. Donc l'idée est de faire dériver à l'intérêt scientifique de l'économie politique de l'importation de main-d'œuvre ou de l'exportation de main-d'œuvre vers une approche plus socio-économique, culturelle et politique des dynamiques individuelles au sein des communautés immigrées et dans l'interaction des communautés immigrées avec l'État du pays d'accueil et les nationaux. J'utilise nationaux pour dire citoyens. Donc c'est peut-être aussi un horrible anglicisme, peut-être les citoyens. Donc de regarder ces dynamiques individuelles, les dynamiques de groupe qui sont bien sûr ancrées dans le territoire du pays d'accueil, mais qui sont aussi transnationales, c'est-à-dire qui sont connectées avec d'autres communautés migrantes dans les autres monarchies du Golfe et qui sont aussi connectées avec les pays d'origine. L'idée est aussi de dériver de ce débat auquel j'ai un peu contribué sur la question des déterminants économiques ou politiques de la structuration des flux migratoires, vers une approche qui prenne en compte la pluralité des acteurs, notamment des acteurs de l'action publique, et la pluralité des institutions impliquées dans cette gestion de l'immigration dans différents lieux. Lieu ici est à comprendre bien sûr au sens géographique, mais au sens politique de lieu de pouvoir ou d'instance de négociation de pouvoir, de suggestion et de domination. Troisième dérivation de l'intérêt, il s'agit, et c'est en ce sens-là assez excitant pour moi en tout cas, de faire rentrer les monarchies du Golfe dans une question un peu plus large, qui est une question bien connue en études migratoires, notamment sur les pays européens, sur l'Amérique du Nord ou sur l'Australie, donc des grands pays développés d'immigration, donc de faire entrer ces cas empiriques dans un questionnement plus large sur les transformations sociales, culturelles, mais aussi économiques et politiques, induites par la migration. En regardant la formation de communautés immigrées de longue durée, sous contrainte de politiques d'exclusion ou de pratiques d'exclusion et de ségrégation. Donc j'espère que c'est assez transparent ce dont je parle. On voit très bien ce que veut dire l'impact de l'arrivée d'immigrants dans des pays d'accueil quand on regarde les États-Unis, le multiculturalisme, cet ensemble de théories qui forment en fait un peu le cœur de la partie théorique des études migratoires, des questions du nationalisme, de l'identité nationale, etc. Or, c'est une question qui ne s'est jamais posée pour les monarchies du Golfe. Pourquoi ? À cause de ce préjugé d'efficacité des politiques anti-intégration et du paradigme néolibéral d'interprétation de la gestion de la main-d'œuvre. Donc, je vais peut-être aller un peu plus vite sur cet agenda de recherche qui est, somme toute, assez technique. Il s'agit de faire se rencontrer à travers notamment cette question de la transformation sociale appliquée au cas des monarchies du Golfe, ou plutôt de l'intégration du cas des monarchies du Golfe dans la réflexion sur la transformation sociale induite par l'immigration, de connecter des champs de recherche qui ne le sont pas pour l'instant, la sociologie de l'immigration qui a essentiellement été, comme je vous l'ai dit, marquée, formée, informée par des cas d'études dans les démocraties occidentales et dans les économies de marché développées. Donc ici, apporter un nouveau cas empirique qui va peut-être, et c'est l'espoir que j'ai, permettre, dans une sorte de boucle de rétroaction merveilleuse, qui va peut-être permettre de renouveler les cadres théoriques d'interprétation de la migration, y compris pour les démocraties occidentales. Le deuxième enjeu, on va dire un peu plus scientifique et méthodologique, c'est d'étudier les formes d'exercice du pouvoir et les relations sociales dans des pays développés, et pas n'importe quel pays développé, des pays développés qui ont subi, on va dire, une sorte d'hégémonie paradigmatique de l'interprétation du rôle de l'État patrimonial, de l'État rentier, des formes de différenciation dites souvent traditionnelles ou confessionnelles entre des groupes, autochtones ou allochtones, mais endogènes, on va dire. Donc, ces modes d'interprétation du pouvoir de l'État qui sont très très puissants quand on regarde le champ des études sur le monde arabe en général et sur les monarchies du Golfe en particulier, mérite à mon avis d'être un tout petit peu réévalué avec ce point d'entrée qui est la migration et qui s'inscrit, on va dire, dans des processus plus larges de mondialisation et de transnationalisation du politique et des relations sociales. Donc ça, c'est un agenda de recherche qui, bien sûr, est extrêmement modeste, hein, sur lequel, là, effectivement, ce cas-là peut rencontrer bien d'autres cas, notamment dans le champ des études régionales ou area studies, qui a eu tendance à enclaver ou à ségréguer justement la perception d'univers culturel. Et je mets l'accent un peu sur cet aspect parce que cette présentation prend place dans une semaine arabe, avec l'idée que s'intéresser de manière précise, empirique, documentée, avec des compétences linguistiques, par exemple, à une aire culturelle en particulier, ne veut pas dire nécessairement sanctuariser en termes théoriques son exceptionnalisme ou son exception. Et l'enjeu est à la fois d'être précis, empirique, on va dire exigeant scientifiquement sur une région, et en même temps d'être capable de faire des comparaisons et de réintégrer une région dans des flux plus larges et dans des dynamiques globales. Donc, quelques chiffres, enfin pas des chiffres, des tendances, on va dire. Vous avez là les taux d'immigration nets, c'est-à-dire les entrants moins les sortants, dans les monarchies du Golfe. Donc, vous voyez que dans la période de décollage des économies pétrolières, vous avez des taux d'immigration qui sont en gros du jamais vu, hein, pour être tout à fait honnête, dans les Émirats arabes unis, au-delà de... voilà. C'est très important et ça reste très important aujourd'hui. Alors, vous pouvez juste prêter attention à ce petit pic inversé, c'est-à-dire cette petite chute dans l'immigration qui se focalise autour de la guerre du Golfe, hein, la deuxième guerre du Golfe, c'est-à-dire l'invasion de la coalition occidentale en Irak. Voilà, l'intervention de la coalition occidentale en Irak après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein et qui est liée en fait au mouvement de rapatriement autoritaire ou de réémigration d'un certain nombre de migrants dans cette région. Alors, combien y a-t-il de migrants dans les monarchies du Golfe? Donc vous voyez sur ce graphe, sur ces diagrammes, et vous voyez surtout la disparité entre les différents pays, donc des nains démographiques et un géant, tout est relatif, hein, mais un géant démographique qui est l'Arabie Saoudite, mais avec des ratios de présence de population expatriée par rapport à la population détenant la nationalité qui sont aussi très impressionnant, ces chiffres étant très largement sous-évalués puisqu'ils n'incluent pas la migration clandestine et que ce sont des chiffres qui sont issus de statistiques officielles. D'accord ? Donc, vous avez par exemple au Qatar ou aux Émirats près de 90% de la population qui n'est pas nationale. Et quand on regarde les marchés du travail, au Qatar et aux Émirats, c'est près de 97-98% de la population active qui est expatriée. Alors, l'Arabie Saoudite est intéressante, Oman est intéressant aussi, mais je ne m'y intéresse pas. Mais l'Arabie Saoudite est intéressante parce que vous avez effectivement un géant démographique relatif, donc avec 26-27 millions d'habitants, 27 millions d'habitants plutôt, 27-28, qui a quand même, en fait, donc 27%, mais plus proche probablement de 30-33%, donc près d'un tiers de sa population qui est émigrée. Mais effectivement, quand on regarde les stocks, un tiers de 27-28 millions, c'est beaucoup plus que 90% de pas beaucoup de millions. Donc, en termes juste de cartographie des flux, ce qui est intéressant dans ces migrations, et c'est une des choses aussi sur lesquelles je travaille dans d'autres régions, c'est qu'il s'agit essentiellement de flux sud-sud, c'est-à-dire de migrations entre des pays en développement. Là encore, la vision, on va dire, caractéristique de l'immigration et des migrations à l'échelle mondiale est plutôt de flux qui partent de pays en développement pour aller vers les pays développés. Donc ça fait partie des représentations figées qu'on a de l'immigration. En réalité, si on regarde les flux mondiaux, plus de la moitié des migrations internationales concernent des pays en développement. Ils ne vont pas du tout vers les pays du Nord ou vers les pays développés. Donc, cette région est un véritable laboratoire de ces flux qui ont été très peu étudiés, qui sont assez peu documentés et qui, encore une fois, sont largement sous-évalués du fait du faible enregistrement de la mobilité dans une grande partie des pays en développement. Il y a deux, on va dire, circuits principaux ou deux dynamiques géographiques principales dans les flux migratoires vers les pays du Golfe. Ce sont des dynamiques intra-régionales à l'intérieur du monde arabe qui, historiquement, ont été dominantes entre les années 50 et le début des années 90, et des migrations en provenance d'Asie, donc du sous-continent indien essentiellement, pardon, et d'Asie du Sud-Est. Et ces flux migratoires en provenance d'Asie sont devenus dominants, c'est-à-dire sont devenus majoritaires dans les flux d'entrants et dans les stocks, donc dans les communautés de migrants, à partir de la fin des années 80. Et c'est notamment sur ce renversement de la sélection, ou plutôt ce renversement des tendances de l'immigration que j'ai travaillé quand je vous disais que j'avais travaillé sur la sélection des migrants en fonction de leur origine à travers l'histoire dans cette région. Donc il y a tout un tas de déterminants politiques régionaux liés au panarabisme, liés à la dépendance en matière de main-d'œuvre des pays pétroliers qui expliquent ce renversement des flux, tout autant que l'argument que les économistes avancent pour expliquer ce renversement des flux dans les années 80, c'est-à-dire le moindre coût de la main-d'œuvre asiatique. Mais la main-d'œuvre asiatique ne coûtait pas plus cher 10 ans avant, donc la question de la rupture historique ou chronologique s'explique par des facteurs politiques. Donc c'était juste pour revenir un peu sur cette question. Donc quand on regarde, alors je suis désolée, mes données sont vraiment vieilles. Quand on regarde en termes de distribution la population étrangère dans les pays du Conseil de coopération du Golfe dans les années 2000, on voit qu'effectivement les pays asiatiques sont prédominants, donc l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, les Philippines, et que les pays arabes, qui étaient dominants jusqu'à la fin des années 80, sont en minorité, mais sont quand même sérieusement représentés. Donc cette photographie est bien sûr marginalement, ou pas si marginalement que ça, fausse, puisque les données viennent du Global Migrant Origin Database, qui est une base de données onusienne, donc qui s'appuie sur des données officielles de recensement, etc., qui bien sûr ne propose pas d'analyse critique des données fournies par les gouvernements, et qui bien sûr, mais ça c'est une caractéristique de toutes les données sur l'immigration, ne prend pas en compte l'immigration informelle ou la présence d'immigrants en situation irrégulière ou semi-régulière dans ces pays. Donc, par exemple, on sait, et vous le verrez, que dans les données concernant l'Arabie Saoudite, la présence des Yéménites est largement sous-évaluée. Donc, une autre image de cette, on va dire, de cette distribution des migrants par origine dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, que vous voyez. Et alors, moi, il y a un élément que je trouve intéressant. Je ne vais pas vous demander de deviner lequel. Mais c'est que, justement, en Arabie Saoudite, la présence des immigrants arabes reste proportionnellement plus forte que dans les autres pays du Golfe, ce qui implique une gestion de la question de l'enregistrement en résidence et de la durée de séjour et de l'intégration formelle et informelle des populations arabes qui est différente des autres monarchies du Golfe. Donc, si on revient, si on vient au cas saoudien, rapidement, et c'est ce détour pour vous expliquer un peu ce qui m'intéresse dans le cas saoudien. L'Arabie saoudite a une démographie unique dans la région, donc je vous l'ai déjà dit. C'est un pays d'immigration c'est une région d'immigration historique. Alors c'est aussi le cas de certaines régions du Golfe, notamment avec l'Iran, mais du fait du pèlerinage, du fait des routes commerciales. Donc ça crée, on va dire, une culture de circulation. En revanche, les flux massifs de main-d'œuvre des années 60 sont similaires à ceux des autres monarchies du Golfe. Les politiques anti-intégration ont été aussi menées sur la base du schéma que je vous ai présenté, avec, là je cite un vice-ministre du Travail en 2006 qui m'expliquait que l'Arabie Saoudite importait du travail et non pas des gens. Sur la base de contrats de travail temporaires, en contrôlant la durée de résidence et en assurant, autant que faire se peut, le turnover, c'est-à-dire une circulation de la migration. Donc ça, c'est le discours officiel, tout en organisant aussi, donc second élément, comme je vous l'expliquais, la fermeture des espaces sociaux, enfin social closure, donc la fermeture sociale des relations entre migrants et nationaux et la ségrégation des communautés immigrantes à travers la planification urbaine, à travers l'accès à l'éducation, à la santé et à travers l'institutionnalisation d'un marché du travail racialisé. Un autre élément important, ça a été le refus d'accorder aux travailleurs migrants des droits du travail, des droits sociaux, bien sûr des droits politiques. Enfin bon, on est quand même dans un contexte où il n'y a pas vraiment de droits politiques dans tous les cas. Et cette question de la sélection de l'immigration, sur laquelle je ne reviens pas. Donc si on regarde l'Arabie Saoudite dans l'histoire, on voit qu'en fait la proportion de travailleurs migrants versus les nationaux reste à peu près constante, sinon en augmentation. Et quand on regarde la distribution par genre ou par sexe des travailleurs migrants, on voit qu'on a effectivement une majorité d'hommes, mais qu'on a quand même une partie importante de la population immigrée qui est féminine et qui, encore une fois, est sous-enregistrée par rapport à la population masculine pour des raisons d'informalité, de regroupement familial illégal ou de travail dans le secteur informel, notamment de travail domestique. Donc là, ce sont encore ce sont d'autres résultats du recensement de 2010. Et si on regarde toujours avec des sources extrinsèques, donc en l'occurrence là, la Banque mondiale, les flux, la distribution en termes de nationalité des migrants, vous voyez que c'est assez cohérent, que l'Égypte, l'Inde et le Pakistan sont extrêmement fortement représentés, mais aussi le Yémen, avec près d'un million de résidents, chiffre encore une fois sous-évalué. Donc, cette dimension-là, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, l'idée est de m'interroger au passage d'un modèle, presque idéologique de perception de la migration comme temporaire à la considération sérieuse des immigrants et des communautés de migrants. Donc au passage de ce que Doug Massey appelait la phase de séjour à la phase d'installation, en observant un certain nombre de variables. Donc des variables quantitatives tout d'abord, qui sont la durée de séjour. Donc il y a des travaux sur l'augmentation relative de la durée de séjour des travailleurs migrants depuis une vingtaine d'années, mais qui portent exclusivement sur des pays qui ne sont pas l'Arabie Saoudite. Donc Noura Lori a travaillé sur les Émirats Arabes Unis. Baldwin Edwards a fait une sorte de grande enquête comparative dans laquelle il n'y avait quasiment pas de données sur l'Arabie Saoudite. Et Philippe Farg et Imko Bauer ont travaillé sur la région à une échelle un peu macro. L'autre donnée quantitative sur laquelle on peut travailler, c'est sur le regroupement familial, au moins dans sa dimension formelle ou légale. Donc, comme je vous l'ai dit, pour les travailleurs, plutôt pour les travailleurs qualifiés, donc avec une hiérarchisation en termes de classe. Et là-dessus, Nea Vora, qui est anthropologue, à travailler sur cette question-là, mais pas du point de vue quantitatif, plutôt à travers une enquête ethnographique sur les Indiens à Dubaï. Et la variable sur laquelle j'ai travaillé, en l'occurrence que je vais vous présenter, sur laquelle j'ai des données dures, c'est sur l'âge de la population résidente étrangère en Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que si on a beaucoup d'enfants, si dans la distribution démographique de nos immigrés, on a beaucoup de gens qui ne sont pas des travailleurs, parce qu'ils n'ont pas l'âge de travailler, même si on prend j'ai pris des tranches assez restreintes pour... on peut supposer qu'il s'agit soit d'enfants de migrants, donc de deuxième génération de migrants, soit même de troisième génération de migrants. Et donc là, on touche à justement cette question de l'installation. En termes de variables quantitatives, c'est une deuxième partie de l'enquête. Il s'agit d'observer les pratiques culturelles, la maîtrise de la langue, enfin, des variables qualitatives qui sont très, très couramment utilisées dans la sociologie de l'immigration un peu partout. Donc la pratique de la langue, les phénomènes de conversion. Donc j'ai quelques collègues qui travaillent sur les conversions, notamment de bonnes Philippines à l'islam. Mais vous pouvez aussi avoir des conversions à l'intérieur d'une population musulmane, vers des formes d'islam à proprement parler saoudienne, type dite wahhabite. Mais bon, je ne rentre pas dans le débat sur l'islam. Les pratiques aussi qui ont l'air souvent plus, on va dire, moins importantes, qui sont les pratiques culturelles de basse culture, c'est-à-dire la consommation de nourriture, les traditions culinaires, les pratiques de loisirs. Donc sont des choses auxquelles je me suis intéressée, notamment un tout petit peu à la fin de ma thèse et qui ont donné lieu à un article, enfin pendant mon post-doctorat, pardon, et auquel je vais me réintéresser maintenant. Je vais m'intéresser aussi aux interactions sociales et aux cultures urbaines. Donc c'est aussi quelque chose que j'avais fait un peu avant sur d'autres terrains. Et donc à l'émergence de ce que Myron Vinner, qui a travaillé sur les diasporas, notamment en Allemagne, a appelé les « incipient diasporas ». Donc j'aime bien ce mot « incipients ». Donc sur l'émergence de diaspora, l'émergence de communautés immigrées, et il travaillait bien sûr sur l'émergence de communautés immigrées de longue durée turques en Allemagne, alors que le système d'immigration ne favorisait pas l'intégration ni le regroupement familial. Donc, première découverte, quand on regarde la distribution par âge de la population étrangère en Arabie Saoudite, on découvre que 20% de ces étrangers sont des enfants que je considère entre 0 et 14 ans très très peu susceptibles d'être des travailleurs migrants. Au regard de la loi saoudienne, ils ne peuvent pas l'être. Donc, et c'est un chiffre vraiment important, enfin, et c'est un chiffre qui provoque toujours des réactions intéressantes auprès des ministères saoudiens auxquels je le présente. Donc là, je vous donne juste les sources de ces compositions. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde, en fait, bon, ce sont des chiffres vraiment à prendre avec des pincettes, mais quand on regarde dans les grands centres urbains, Riyad, Jeddah et d'autres centres urbains, en fait, on voit que cette proportion des enfants dans la population migrante est encore plus forte que dans des régions comme Apa ou la région du sud ouest de l'Arabie Saoudite, où vous avez par exemple un phénomène de migration temporaire pour le travail agricole qui là est vraiment plutôt de l'ordre de la circulation et des bras zéro, quoi. Enfin, de la migration très temporaire et saisonnière pour le travail agricole. Bon, bref. Donc, une des questions que je me pose, c'est pour expliquer cette installation, pour essayer de voir quelles variables vont avoir un impact sur l'installation, la durée de séjour, la formation de communautés immigrantes, et aussi, parce que c'est aussi intéressant, à quel type d'installation on a affaire, parce que c'est assez peu dire que de dire qu'on a des enfants, donc a priori des gens qui s'installent ou qui font venir leur famille, etc. Si on a affaire à quelle qualité d'intégration, et qualité n'est pas ici entendue dans un sens éthique, mais à quel type d'intégration on a affaire. Dans la mesure où on n'a pas affaire à de l'intégration formelle, pas d'accès à la nationalité, pas d'accès à des droits, bien sûr. Donc, les variables auxquelles je m'intéresse, c'est la religion, la nationalité, la race, comme construit social, bien sûr, le genre, autre construit social, les localités d'installation des migrants entre l'urbain et le rural, mais aussi à l'échelle micro-locale, est-ce que l'installation, par exemple, dans un certain type de quartier va favoriser l'allongement de la durée de séjour par opposition à d'autres quartiers? Et vous pouvez, on peut supposer que la vie dans un camp de travail va avoir moins d'aménité et va moins susciter d'installation que la vie dans un quartier urbain, intégré à un tissu urbain, on va dire. le type de logement aussi. Donc l'idée est d'essayer d'aller assez finement dans les variables sociologiques qui peuvent déterminer cette installation. Et bien sûr, d'être fidèle à une nourriture intellectuelle marxiste et néo-marxiste et de regarder, bien sûr, les effets de classe et notamment à travers la qualification et le revenu. Okay, le revenu et la qualification sont les variables que j'aurais le moins de mal à collecter, enfin que j'ai déjà collecté en grande partie à l'échelle macro. Et bien sûr, alors là, élément beaucoup plus discret ou beaucoup plus empirique, ethnographique, la nature des interactions sociales impliquées par le processus migratoire et notamment le type de relation avec le kafil ou sponsor qui est l'intermédiaire et le garant légal des migrants sur le sol saoudien. Donc il fait partie du dispositif de contrôle de la migration. Donc, en ce qui concerne rapidement le calendrier de collection des données, les données quantitatives sont en train d'être collectées, de même que les données sur les dispositifs institutionnels de gestion de la migration, cette dimension de partenariat public-privé dans la gestion de la migration qui implique à la fois les employeurs, les chambres de commerce, les ministères, les bureaux du travail, et aussi ces fameux kafils, donc les sponsors, qui sont des acteurs privés de cette gestion de l'immigration. Et les données qualitatives suivront dans un second temps d'une enquête que j'avais commencée en 2010, notamment auprès des deuxième génération de migrants, c'est-à-dire des jeunes. Et maintenant, juste pour finir sur le point que j'ai soulevé au début de ce travail, donc cette question méthodologique de réévaluer le rôle de l'État ou plutôt la nature des processus de gestion de l'immigration comme processus hybride impliquant acteurs privés et acteurs publics. Il me semble que c'est particulièrement intéressant de l'étudier en ce moment. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, l'Arabie Saoudite mais d'autres monarchies du Golfe sont lancées dans des grandes réformes du droit de l'immigration et des politiques migratoires qui visent, pour parler vite, à plus de contrôle par l'État de l'immigration, donc pour reprendre ce que disait le politiste Theda Skocpol dans les années 80, « bringing the state back in », dans un processus qui est hybride et donc peut-être un peu pas complètement contrôlé. Donc il y a une réétatisation de ce processus d'immigration, mais qui est aussi conjointement, enfin qui est associé en fait à un échec de fait du contrôle de l'immigration, si on considère que cette installation des migrants, qu'on constate dans les chiffres, est le révélateur d'un échec de la politique officielle et des discours, ou plutôt du cadre idéologique, la gestion de l'immigration par les États du Golfe, qui est menée avec une vocation anti-intégration et d'assurer le turnover de la main-d'œuvre. Donc la question de l'échec des politiques publiques n'est pas une question bien sûr normative, mais c'est une question qui se pose du point de vue des acteurs. Donc là on rentre plutôt dans des objets qui sont des objets un peu classiques de l'analyse des politiques publiques, la tension entre des dynamiques sociales, les dynamiques du secteur privé et l'action de l'État, avec peut-être une... Voilà, qui sont aussi des questions classiques qu'on se pose sur les politiques migratoires. Les politiques migratoires étant le meilleur exemple quand vous faites un cours sur les politiques publiques et que vous voulez montrer que les politiques publiques ratent, enfin, n'atteignent pas leurs objectifs, et bien vous prenez l'exemple des politiques migratoires parce que c'est assez constant dans tous les contextes. Elles ratent toujours. Surtout quand il s'agit de politiques migratoires de contrôle anti-immigration, anti-intégration. La question, c'est un peu celle du particularisme de l'Arabie Saoudite et des États du Golfe. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans le contexte autoritaire, dans les structures extrêmement contraignantes de la gestion de l'immigration, à la fois par les acteurs publics et les acteurs privés ? Et tout ça nous rapproche de questionnements un peu fondamentaux en sociologie politique, du rôle des structures versus le rôle des agents. Donc des dynamiques d'autonomisation du champ social par rapport au contrôle des institutions publiques, et notamment s'interroger sur la sociologie de l'État par rapport à l'immigration. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, Ce qui est intéressant, c'est ce dont je vous parlais en introduction, enfin quand j'ai défini le cadre théorique de ce travail, c'est justement la distribution des acteurs qui gèrent cette, la question de enfin, l'importation de main-d'œuvre et la présence des immigrants sur le territoire, donc entre le ministère du Travail, le ministère de l'Intérieur, mais aussi des acteurs privés, des chambres de commerce, les sponsors. Cette question de la tension entre le contrôle par l'État ou un management néolibéral de la migration par les acteurs privés, qui invite notamment à regarder d'un peu plus près ce fameux système de sponsorship, ou le système de kafala, qui a été défini par Gilbert Baugé il y a 40 ans quasiment, comme un système d'intermédiation sociale, un rapport social de transition, qui n'est pas exactement le contrôle par l'État, qui n'est pas exactement le contrôle nécessairement par le marché, puisque le kafil ou les koufala, enfin, le sponsor, est en général l'employeur, mais peut aussi être le recruteur, et peut aussi, dans certains cas, être une tierce personne, c'est-à-dire un tiers dans la triangulation du contrôle du migrant par l'État et son employeur. Donc, sans m'attarder plus longtemps, ce que j'ai trouvé intéressant dans mes derniers séjours en Arabie Saoudite, c'est justement cette réforme du contrôle de l'immigration qui passe en fait par un contrôle des immigrés. Donc on l'a vu par exemple avec les expulsions massives de travailleurs migrants et d'immigrants clandestins. Il y a au moins 1 million de personnes qui ont été expulsées l'an dernier, si ce n'est beaucoup plus, essentiellement des travailleurs peu qualifiés, et une campagne corrective de mise à l'équerre en fait, des statuts des travailleurs en fonction des nouvelles régulations du marché du travail, qui a coûté très cher aux ambassades représentant les travailleurs et aux travailleurs eux-mêmes, ainsi qu'aux entreprises. Donc il y a ce contrôle de l'immigrant, mais il y a aussi un contrôle de l'économie et un contrôle des acteurs économiques et notamment des entreprises qui passent, excusez-moi ces allers-retours dans les diapositives, qui passent par une classification des entreprises en fonction de leur degré de réponse aux impératifs de saoudisation du marché du travail, c'est-à-dire de réduction de leur main-d'œuvre étrangère et d'augmentation de la part des nationaux dans leurs emplois salariés. Donc les entreprises sont distribuées en fonction de leur couleur qui leur donne le droit, soit si elles ont déjà beaucoup de Saoudiens, elles leur donnent le droit d'importer quelques étrangers, ou si elles ont trop d'étrangers, elles leur interdisent de renouveler les visas de leurs travailleurs et d'importer davantage d'étrangers. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce système de nouvelles régulations et de management la nationalisation ou l'indigénisation de la main-d'œuvre et de la réduction de la dépendance à la main-d'œuvre étrangère, en fait, a généré dans le secteur privé tout un tas de réactions en général assez négatives et tout un tas de pratiques de contournement extrêmement intéressantes de mon point de vue. Elle a aussi créé de nouveaux intermédiaires qui se superposent à la triangulation dont je vous parlais entre marché du travail, État, sponsor, pardon, pour contrôler les migrants, notamment avec la création. Enfin, la restructuration du secteur de recrutement avec la création d'un certain nombre limité d'agences de recrutement, de très grosses agences de recrutement, notamment pour les travailleurs non qualifiés qui ont vocation à avoir une sorte d'oligopole sur l'importation de main-d'œuvre et à éviter la dispersion des petites agences de recrutement et des kafils qui assurent l'existence d'un marché du travail informel, notamment pour le travail non qualifié, dans lequel vous avez une population qui est entre le formel et l'informel, entre deux contrats de travail, etc. Donc, exercer un contrôle à travers des entreprises privées, donc une sorte de délégation à des entreprises privées de cette mise en application des politiques migratoires et des projets de réforme du système de la kafala pour réduire le pouvoir des sponsors, enfin leur marge d'autonomie. Les résultats, eh bien, on ne les connaît pas. Donc, on n'en parle pas. Mais, voilà, ce que je fais en ce moment, c'est ce dont je vous ai parlé pendant trop longtemps maintenant, c'est-à-dire essayer d'interroger le fonctionnement de l'État à travers le prisme migratoire et de me poser aussi la question, comme je vous le disais, de la transformation sociale induite par la migration par opposition à cette notion, enfin cette idée de contrôle de l'immigration à la fois par l'État et par les sociétés. Voilà.